Alors ce soir, c'est quoi?
Le Super Bowl.
Super Bowl. Est-ce que vous avez reçu mon courriel cette semaine? J'espère que quelques-uns vont saisir l'occasion d'être Super Bowl ce soir. Inviter des amis, inviter des gens qui se sont joints à l'Assemblée, inviter des voisins. Saisissez l'opportunité de connecter. On est en ville. Fred Pellerin, il y a une chanson où il compare la ville puis la campagne, puis il dit « En campagne, tu connais au moins deux personnes. En ville, tu connais personne. » Mon fils rêve de vivre en campagne parce que tu connais tes voisins. Il y a quand même des moments, tu sais, stratégiques dans l'année où c'est l'opportunité de connecter avec les gens. Et plutôt que d'écouter seul votre match ce soir, invitez des gens de l'église, invitez des amis, les amateurs de sport. Faites une soirée de filles aussi. Tu sais, les filles peuvent rire des gars qui se font comme planter. Je sais pas, il doit y avoir une manière de tourner ça, cette affaire-là. Les ailes de poulet. Tu sais, au moins les ailes de poulet. Mais inviter du monde, saisissez l'opportunité. Nous, on le fait, on va avoir quelques personnes qui vont venir, puis on est vraiment contents de ça. Et on va avoir du bon temps ensemble. Juste mentionner quelques petites choses rapidement avant d'aller dans la parole de Dieu. La semaine dernière, j'ai parlé de louange, j'ai parlé d'adoration en église et vous remarquerez qu'on essaie d'amener de l'ordre un petit peu dans le culte aussi. Et donc, je veux vous encourager, lorsqu'on commence la célébration, une fois, j'étais allé visiter une grosse église haïtienne avec un frère que j'aime beaucoup à Montréal, puis j'avais comme trouvé ça vraiment particulier. Le pasteur était dans l'entrée et littéralement, il serrait la main à chaque personne, mais il serrait pas la main. Il y avait une technique particulière, d'accord? Il serrait la main, puis il prenait le coude. Il amenait les gens comme ça. Il faisait 3-4 pas, puis là, il allait en chercher un autre. Littéralement, je l'ai vu faire ça pendant à peu près 20-25 minutes. Mais je suis sur le point de le faire. D'accord? Soyez pas insultés, je m'inspire de ceux qui me précèdent et qui me montrent l'exemple. Et je suis sur le point de le faire. Mais on veut venir adorer Dieu avec ordre. Et donc, je vous demande, faites tous vos efforts pour être ici à l'heure. Si vous êtes retenu, vous avez des choses à discuter, faites-le à l'extérieur. Si vous arrivez en retard, rentrez discrètement, on veut adorer Dieu parce qu'il est là pour nous écouter. On veut le faire pour bénir son nom. On veut le faire aussi pour être un témoignage aux gens qui viennent parce qu'on leur dit que Dieu est important. On leur dit que Dieu est grand. Bien, l'ordre qu'on va avoir ensemble reflète ça. Et de la même manière, lorsqu'on est en train de célébrer, lorsqu'on est pendant la prédication, tout ça, je vous demande de respecter aussi qu'il y ait un ordre. Et si vous avez des choses à faire, faites-le extrêmement discrètement pour pouvoir bénir Dieu, pour pouvoir le glorifier, pour qu'il prenne plaisir à nos louanges. D'accord? C'était ma petite exhortation de directeur d'école. Quelques requêtes de prière pour vous. D'accord? Je pars 3 jours cette semaine et ceux qui sont des habitués de l'Église, vous savez que je fais ça 2 fois par année avec 2 de mes bons amis, 2 pasteurs, François Turcotte et Stéphane Gagné. Et on part 3 jours dans la prière, dans la lecture, dans la réflexion. Je vous demande de prier pour moi. Je vous demande de prier pour nous. On a besoin de vos prières. Une des choses, entre autres, que je regarde avec le Seigneur, je cherche une conviction définitive pour les livres bibliques qu'on va regarder ensemble. C'est-à-dire, sous peu, on commence dans un livre de l'Ancien Testament. Je suis pas sûr encore. Je suis en train de chercher la face de Dieu. J'ai une idée ou deux. Mais je cherche une conviction. Et puis ensuite de ça, mon livre, Dieu voulant pour l'automne dans le Nouveau Testament. Alors, priez pour moi. Priez pour que Dieu me parle. Dieu a le droit de changer mon agenda dans ces retraites-là et de me parler. J'ai du temps simplement pour la prière, la méditation. J'ai plusieurs livres que je vais survoler, certains pour méditer, d'autres simplement pour nourrir ma vision de l'Église, ma vision de l'œuvre de Dieu. Alors, priez pour moi, s'il vous plaît, pour ça. Je vous demande de prier pour le concert de vendredi soir aussi. Mettez ça dans la prière. Il y a de riches bénédictions. Et personnellement, je suis encore régulièrement, profondément béni spirituellement en écoutant ce CD-là, en étant ramené à ces vérités-là. Alors, priez pour le concert. François, l'équipe, tout ça, au niveau de la technique, travaille très fort pour qu'on puisse avoir un bon concert. Je vous demande de mettre ça dans la prière. Priez pour Sébastien et Jimmy, que le cœur de cette équipe-là soit vraiment au Seigneur au moment où ils vont venir nous conduire vendredi soir prochain. Je vous demande de prier pour François Turcotte. François, qui va être avec moi à la retraite pendant la semaine, a accepté de prêcher dimanche prochain ici, afin que je puisse vraiment me concentrer sur d'autres choses pendant la semaine. Alors, c'est François qui va apporter le message dimanche prochain. Je vous demande de prier pour lui, pour que Dieu puisse le préparer. Et on va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Père, c'est vraiment bon de chanter tes louanges. Seigneur Jésus, de fixer les regards sur toi, de nous rappeler ce que tu as fait pour nous à la croix, ce que tu fais encore pour nous, Seigneur, intercédant en notre faveur. C'est bon pour nos cœurs de fixer les regards sur toi, ô Dieu, et de se rappeler que cette terre et que nos vies ne gravitent pas autour de nous-mêmes, de nos rêves, de nos projets, mais de tes rêves et de tes projets. C'est bon pour nous, Père, de nous rappeler que tout commence avec toi, que tout est là pour ta gloire et que nos vies sont là pour ta gloire et que tout ce qu'il y a de bon ici-bas et dans nos vies, ce sont des grâces que tu nous fais. C'est parce que tu prends plaisir à bénir tes enfants. C'est parce que tu prends plaisir même à bénir les pécheurs qui n'ont rien à faire de toi actuellement, Seigneur, mais tu es bon envers les bons et les méchants. Et le soleil se lève, Seigneur, sur les bons et sur les méchants. Mais nous, ce matin, nous sommes ici parce que tu es Dieu, parce que tu es entré dans nos vies, parce que tu nous as interpellés, parce que tu as mis de l'ordre, Seigneur, dans ce petit univers qui est le mien, et tu es venu te placer au centre, Seigneur. C'est un grand privilège pour moi de te servir et pour nous de pencher les regards sur ta parole ce matin. Viens nous parler par ton esprit. Viens nous instruire, Seigneur. Viens nous apprendre à prier et à parler de toi ce matin. Aide-nous à grandir, Seigneur, dans ces deux mandats que tu nous as donnés. Seigneur, j'aimerais avoir une pensée pour le petit-fils de Manon, une amie de Christina, Seigneur. Et on veut te prier pour ce petit enfant parce qu'il est en train de subir une opération pour une greffe. Et Seigneur, Christina, prie pour lui, prie pour Manon, pour sa famille. Et on veut te demander, Seigneur, de te révéler à eux, de manifester ta bonté. Viens leur montrer que tu es bon et que tu veux prendre soin d'eux et que tu veux être là dans leur vie, Seigneur. Et toi qui es le souverain médecin, le vrai médecin, je te demande de mettre ta main sur ce petit enfant actuellement et de venir le bénir parce que tu es bon, Seigneur. Et permets ensuite, Seigneur, que ses parents, que ses grands-parents se tournent vers toi pour te remercier, qu'ils puissent découvrir que tu es Dieu et que tu es souverain. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur ce matin. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre ces choses dont tu veux nous parler. Sois avec ma bouche, comme le demande Paul, afin que je n'aie pas honte et que je sois plein d'assurance, Seigneur, et que je sois clair pour dire tout ce qu'il y a à dire, Seigneur, sur ce passage. Et que ton Église puisse grandir pour ta gloire. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, je vous avais dit la semaine dernière, je reviendrai dans quelques semaines sur les priorités, puis je priais cette semaine, puis j'ai dit non, c'est le moment. Le conseil a cherché à définir sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer. Le conseil des anciens, pour ceux qui ne sont pas familiers, cette assemblée est sous la direction d'un conseil d'anciens, d'un groupe de pasteurs, je ne suis pas le seul. Et donc, on s'est réunis, on a réfléchi, et c'était en fait assez simple pour nous de définir quelles sont les priorités pour 2011 pour l'Église. Où est-ce que l'Église doit grandir? Deux domaines, je l'ai mentionné tantôt dans la prière. Nous devons grandir dans la prière et dans l'évangélisation. D'accord? Ça, c'est les deux priorités que nous voulons placer devant vous. Et honnêtement, c'était unanime, avec vraiment conviction. Personnellement, la priorité de la prière est sur mon cœur depuis un bon bout de temps, je vous en parle. La priorité de l'évangélisation, on ne peut pas le mettre plus clairement qu'en consacrant un des pasteurs à cette charge-là, à ce travail-là, Alexandre, comme responsable de l'évangélisation. Mais ça va être nos deux priorités en 2011. Et j'ose vous dire que ce sera nos deux priorités jusqu'à temps que le Seigneur nous a fait grandir là-dedans. Je m'avance un peu, mais je pense pas mal que c'est l'esprit du conseil. D'accord? Grandir dans notre vie de prière, comme Église, individuellement, comme personne. Grandir dans notre évangélisation en assemblée, dans notre évangélisation personnelle, lorsqu'on partage la foi. Et au cours des prochaines semaines, je vais tranquillement vous partager C'est quoi le plan de match? On parle de plan de match aujourd'hui. Ce soir, il y a un plan de match, il y a toutes sortes de stratégies. Mais ça, je vous en parlerai davantage dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour se donner des outils, des opportunités de grandir dans ces deux domaines-là? Je vais vous en parler davantage dans les prochaines semaines. Mais ce matin, je veux commencer par le début. Commencer par la parole de Dieu. Et aller voir ce que Dieu a à nous dire sur ces deux choses-là, sur la prière, sur l'évangélisation. Et le passage que j'avais sur mon cœur, c'est le passage qu'on est en train d'apprendre dans notre petit groupe, qu'on est en train de mémoriser, Éphésiens 6, les versets 18 à 20. C'est un passage merveilleux qui nous parle de Dieu, qui nous parle de la prière et qui nous parle d'évangélisation. Éphésiens 6, les versets 18 à 20. Maintenant, pour les placer dans leur contexte, puisqu'on n'est pas en train d'exposer tout le livre, toute la lettre aux Éphésiens, je vais quand même prendre le temps de vous lire les versets 10 à 20. Sans ça, les trois versets perdent beaucoup de leur sens et de leur richesse. Alors, Éphésiens 6, les versets 10 à 20. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à l'église qui était à Éphèse et qui leur a envoyé cette lettre. Et voici ce qu'il leur dit à la fin de sa lettre. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment ou avec courage et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul arrive à la fin de sa lettre. Il a exposé à l'église d'Éphèse toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Laissez-moi simplement vous rappeler, si vous n'êtes pas très familier avec la lettre aux Éphésiens, qu'elle commence sur le plus long verset du Nouveau Testament. En Éphésiens 1, si vous tournez avec moi, et on ne va pas lire le passage, mais je veux juste situer quelque chose dans votre esprit pour comprendre l'exhortation à la prière à la fin de la lettre. La lettre aux Éphésiens commence avec le plus long verset du Nouveau Testament, les versets 3 à 14, c'est une phrase. Éphésiens 1, 3 à 14, une phrase de Paul, dans laquelle Paul essentiellement nous dit une chose. C'est une phrase qui est riche, c'est dense, il y a tellement de choses là-dedans. Mais en gros, ce que ça dit une chose. Tout commence avec Dieu. En gros, c'est ça. Dans cette longue phrase, Paul est en train de nous dire, c'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Et le moyen par lequel on pouvait être sauvé, c'est pas nous qui l'avons trouvé, ce n'est pas par nos propres efforts, c'est Dieu qui l'a conçu. Et le but de tout cela, c'est pas de manifester notre gloire à nous, notre bonheur à nous, trouver notre bonheur à nous. Premièrement, c'est trouver la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu. Tout commence avec Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui a conçu le moyen par lequel nous pourrions être réconciliés avec lui. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est lui qui a pourvu à ce moyen-là en Jésus-Christ. Et à la fin de cette longue phrase, c'est lui qui nous a scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous a donné son esprit et nous sommes scellés, nous sommes en lui, nous avons ce sceau en nous. Alors Paul commence la lettre en disant « Tout commence par Dieu, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui pourvoit. » tout commence par Dieu. Puis à travers toute la lettre, il va nous exposer cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie à travers la croix et combien c'est fantastique cette grâce que nous avons et combien nous sommes sauvés par grâce simplement par un acte de foi et combien les Juifs et les païens et le peuple choisi de Dieu et tous les hommes sont invités pour devenir ce nouveau peuple. Une édification spirituelle. Alors, il va développer et exposer cette richesse extraordinaire de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix et tout ce que ça nous donne. Ensuite de ça, il va nous expliquer comment on devrait marcher à la lumière de cet appel extraordinaire, de cette grâce qui nous a été faite. Comment est-ce qu'on devrait marcher maintenant? Comment on devrait se marier? Comment on devrait élever nos enfants? Comment on devrait se comporter avec notre employeur, avec nos collègues de travail? Comment est-ce qu'on devrait se comporter dans un monde qui ne se préoccupe pas nécessairement de Dieu et qui poursuit ses propres passions? Est-ce qu'on va juste suivre le courant, suivre les modes, suivre tout ce qui sort dans le monde? Il nous explique toutes ces choses à la lumière de l'appel qui a été fait pour nous. La lettre commence avec Dieu. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous sauve. La lettre se termine avec Dieu. Parce que toutes les victoires que nous allons acquérir, c'est Dieu qui va les donner. Alors voyez-vous, la lettre se termine avec une exhortation à la prière. Dieu nous a tout donné, Dieu nous a appelés, et toutes les victoires sont encore entre ses mains. Alors Paul termine la lettre en disant, priez, priez, priez constamment. Parce que c'est lui qui fait tout. Et toutes les victoires que vous allez avoir dans votre vie, toutes les victoires dans votre cœur, les victoires dans vos relations, les victoires dans vos combats personnels, les victoires dans votre évangélisation personnelle, lorsque vous allez voir des gens venir à lui, c'est Dieu qui va intervenir. La victoire est entre les mains de l'Éternel. Alors, Paul termine cette lettre en disant, « Priez, priez, priez constamment. » Verset 18 à 20. Éphésiens 6, 18 à 20. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça ne peut pas être plus insistant que ça, là. En tout temps, toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints, toute la gang. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Priez, priez, priez constamment parce que ça commence avec Dieu et la victoire est entre les mains de l'Éternel. Essayez pas de faire ça par vous-même. C'est Dieu qui vous a appelé, c'est Dieu qui vous a sauvé, c'est Dieu qui va vous sanctifier et c'est Dieu qui va vous donner les victoires. Ne soyez pas indépendants à l'égard de Dieu. Voyez-vous, comme Église, comme chrétien, nous avons à cœur de vivre en paix avec Dieu, en paix dans notre cœur, mais en paix dans nos relations aussi autour de nous. On a à cœur que nos foyers, ce soient des foyers de paix. Amen. Que nos amitiés, ce soient des amitiés paisibles, solides. Que nos relations avec les collègues de travail reflètent Dieu et qu'on soit en paix avec les gens autour de nous. On a à cœur de bâtir une assemblée qui va glorifier Dieu, qui ne va pas être juste en train d'être centrée sur elle-même, mais qui va avoir les yeux fixés sur Dieu, qui va aimer Dieu passionnément et qui va aimer les hommes avec une compassion exemplaire, à l'image de Christ. On a à cœur que les gens autour de nous, en nous côtoyant, découvrent l'amour de Dieu. On a à cœur que les gens autour de nous soient réconciliés avec Dieu, qu'ils comprennent quelque chose qui est tellement étrange. Tout à l'heure, on célébrait le repas du Seigneur. Les gens ne ressentent pas le besoin d'être justifiés, d'être pardonnés. Dieu, pour eux, c'est un gros toutou qui les attend tout le temps. Mais on a à cœur qu'ils soient réconciliés avec Dieu. On a à cœur que la bonne nouvelle de l'Évangile soit visible dans nos foyers, dans nos couples. On a à cœur que nos enfants deviennent des hommes et des femmes de Dieu. On va entendre des bonnes nouvelles aussi des autres églises. On n'est pas centré sur cette assemblée, mais on va entendre que l'Évangile est en train de se répandre partout au Québec et partout sur la terre et dans les pays où c'est tellement difficile de percer, d'avoir la liberté d'annoncer Jésus-Christ. Et Paul nous dit, commencez à prier. Apprenez à prier. Priez intensément. Parce que ces victoires-là sont entre les mains de Dieu. Regardez le contexte des versets 10 à 20. Paul nous dit que nous sommes engagés dans un combat qui ne se gagne pas avec une Kalachnikov, avec un bazooka ou avec des chars d'assaut. En d'autres mots, Paul est en train de nous dire qu'on est engagé dans un combat qui ne se gagne pas non plus à force d'arguments. On est engagé dans un combat qui pour lequel la persuasion des hommes ne suffira pas. Paul dit au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Toutes les gens qu'on voudrait convaincre de se réconcilier avec Dieu, tous leurs arguments, toutes leurs attitudes, toutes ces forteresses de pensée qu'ils ont, ce n'est pas ça notre véritable adversaire. C'est une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Aussi étrange que ça puisse paraître à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, puis il dit, c'est une gang de malades. Vous croyez qu'il y a un monde spirituel, vous autres, c'est ça? Il y a des choses comme ça qui sont là, qui sont invisibles. Vous êtes malades. Vous êtes une gang de flyés, des capotés. C'est juste de la psycho, votre affaire. Non, je suis désolé. Tous les chrétiens ici savent que lorsqu'une personne décide d'arrêter d'être centrée sur elle-même, de poursuivre juste ses passions à elle, pour s'humilier devant Dieu et dire, « Dieu, j'ai péché contre toi et je veux marcher dans la sainteté. » Lorsqu'une personne décide d'aller voir un collègue de travail pour lui demander pardon, lorsqu'une personne, après s'être convertie, commence à aller faire le tour des places où elle a vandalisé, où elle a cambriolé, où elle a commis des crimes, puis va voir des gérants de boutiques pour dire, j'ai besoin de vous voir, monsieur, j'aimerais vous faire un chèque. Parce qu'il y a quelques années, j'ai volé pour 3 000-4 000 $ de stock ici, avec des amis. Lorsqu'une personne décide de persévérer dans un couple alors que ça ne va pas et continue d'aimer alors qu'il n'y a pas de réponse, c'est à sens unique, cette affaire-là. Mais la personne y croit parce que c'est une alliance devant Dieu. Lorsqu'une personne décide d'accueillir un enfant qui a été tellement méchant et méprisant, décide de l'aimer, lui pardonner, juste le chérir, juste l'accompagner dans ses folies, va le chercher à sa sortie de prison. Parce que moi, j'ai vu des choses comme ça ici. Des parents qui vont chercher leurs enfants à la sortie de prison. Quand on assiste à ces choses-là, on sait qu'il y a un combat spirituel. C'est pas juste de la psychologie, cette affaire-là, les amis. Et si vous avez cette conviction-là, comme moi, bien, c'est le temps de se mettre à genoux. C'est le temps de se mettre à genoux parce que les victoires ne seront pas acquises par nos arguments. Si on est engagé vraiment dans une guerre qui est spirituelle, Si ce monde invisible est vraiment là, est-ce que c'est à force d'arguments puis avec des belles paroles qu'on va convaincre tout le monde? C'est Dieu qui va donner les victoires. Voyez-vous, Paul commence sa lettre en disant, c'est Dieu qui vous a sauvés, c'est Dieu qui vous a appelés, vous le savez dans votre cœur, bien mettez-vous à genoux si vous voulez qu'il y ait d'autres choses qui se passent autour de vous. Parce que c'est Dieu qui va accorder les victoires. C'est Dieu qui va accorder les victoires. Amen. Et donc, nous avons besoin de commencer à apprendre à prier. C'est une priorité. C'est une priorité dans l'Église. Et certains d'entre vous, vous allez nous entendre vous parler de ça pendant toute l'année, puis vous allez faire la sourde oreille. Vous connaissez l'expression des pelleteux de nuages? Les pelleteux de nuages, c'est des rêveurs qui essaient de faire avancer des affaires avec leurs beaux rêves. Certains d'entre vous, là, vous allez passer toute l'année, vous ne saurez même pas que la priorité dans l'Église cette année, c'est la prière et l'évangélisation. Bien, continuez à pelleter des nuages. Continuez. Dans quelques années, vous allez être assez fatigué, juste pour vous mettre à genoux devant Dieu. Et juste reconnaître qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Et je sais de quoi je parle. Je vous l'ai dit cet automne. Après 20 ans de vie chrétienne, ma requête la plus importante pour le cœur de Yannick cette année, c'est « Père, commence à m'enseigner à prier. » J'avais mis « Enseigne-moi à prier », mais j'ai corrigé ça. Pendant les deux dernières années, ma requête, c'était « Père, apprends-moi à vivre par la foi. » Il y avait tellement de peur et de lutte et de combat en moi, et je savais que c'était un problème de foi. Et pendant deux ans, ma prière constante devant Dieu, pour moi, là, c'est « Père, apprends-moi à vivre par la foi. » Alors, il reste encore beaucoup à apprendre, mais Dieu a fait énormément de travail. Et les gens qui sont près de moi peuvent en témoigner. Ma prière cette année. Et pour les années à venir, jusqu'à temps que Dieu ait exaucé, et il va répondre, je peux vous le dire. C'est « Père, commence à m'enseigner à prier. » Alors, certains d'entre vous, vous n'écouterez pas cette année. Vous allez continuer à être des activistes crasses qui essayent de faire les choses par vous-même. Continuez. Continuez à pelleter des nuages. Quand vous serez assez fatigué, vous allez vous mettre à genoux et vous allez commencer à prier. Maintenant, c'est ma prière pour ma vie. Et donc, Dieu va répondre à ma prière parce que c'est une prière selon sa volonté. Et déjà, il est en train de le faire, je peux vous le dire. Mais ça veut dire aussi que Dieu va vous provoquer dans ce domaine-là parce que c'est souvent comme ça dans la relation entre une église et ses bergers, ses pasteurs. Ce que Dieu travaille dans nos vies, il va le travailler dans l'assemblée. Et Dieu va travailler ça, il va nous apprendre à prier. Si on veut que ça bouge, il faut réaliser que nous sommes engagés dans un combat qui est spirituel et on aura beau faire tous les cours bibliques du monde dans cette église-là et tous les arguments et être les meilleurs à argumenter ou quoi que ce soit, c'est Dieu qui va faire la différence. Amen? Amen. Commençons à apprendre à prier. On va le faire en tournant ensemble dans ce passage, en le regardant d'un petit peu plus près. Verset 18, on va plonger dedans ce matin. Verset 18, 19 et 20 seulement. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Deux idées à retenir pour résumer le verset 18. Priez par l'Esprit, priez avec intensité. Priez par l'Esprit, priez avec intensité. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Paul nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». De quoi est en train de parler? Est-ce que prier par l'Esprit, c'est comme un canal, tu sais, t'essaies de s'intoniser, puis quand tu arrives sur l'Esprit, oh, tu le sens. Hey, je suis connecté, bouge plus, on prie maintenant. Je suis connecté sur le Saint-Esprit, je prie par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est un sentiment? J'ai un sentiment qui me dit que je suis en train de prier par l'Esprit. Est-ce que c'est un état mystique où je suis en train de vivre quelque chose, puis oh, là, je suis en train de prier par l'Esprit, je suis là, oh, oui, je prie par l'Esprit. Avant, je priais par la chair, maintenant, je prie par l'Esprit. C'est quoi? Ben, oui et non. Un petit peu de tout ça. Mais pas tout à fait ça non plus. Paul parle beaucoup du Saint-Esprit dans la lettre aux Éphésiens. D'accord? Il en parle beaucoup. Et je pense que pour comprendre ce qu'il est en train de dire ici, il faut juste survoler rapidement ce que Paul nous dit sur le Saint-Esprit. Paul commence sa lettre en nous parlant d'une nouvelle identité que nous avons. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ ont une nouvelle identité et une part importante de cette nouvelle identité, c'est que Dieu habite en nous. Quand je place ma foi en Jésus-Christ, Dieu me pardonne, me purifie de mes péchés, je suis réconcilié avec Dieu, mais un aspect extrêmement important de ce salut, c'est qu'à ce moment-là, moi, étant pardonné, réconcilié avec Dieu, je peux devenir le temple de Dieu. Et son esprit vient habiter en nous. Alors, Paul nous dit dans Éphésiens 1, 13 que nous avons été scellés du Saint-Esprit. J'ai une nouvelle identité. Le Saint-Esprit habite en moi. Ça peut aider à prier par l'Esprit, n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit habite en moi. Paul nous dit ensuite de ça dans Éphésiens 2, les versets 18, puis un petit peu plus loin, le verset 22, que cette Une partie de cette nouvelle identité aussi, c'est que tous les hommes sur la terre peuvent être réunis en dans une seule maison, dans un seul esprit. Les Juifs, qui étaient le peuple de Dieu, les païens, tous les autres peuples de la terre qui n'étaient pas le peuple de Dieu, sont réunis ensemble. C'est un mystère qui avait été caché pendant des siècles. Ils sont réunis ensemble dans un esprit, dans l'esprit de Dieu. Puisque chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, qui plaçons notre foi en Jésus-Christ, devenons tous, sommes tous scellés du Saint-Esprit. Nous sommes tous unis dans un esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Ça fait partie de notre nouvelle identité. Nous devenons le peuple de Dieu tous ensemble. Paul nous dit dans Éphésiens 2, verset 22, que nous devenons une maison spirituelle. On est assemblés ici, physiquement, en dessous d'un bâtiment qui n'est pas l'Église. L'Église, c'est vous, c'est l'Assemblée, c'est moi. Ça, c'est un édifice. Mais en dessous de cet édifice physique-là, il y a un édifice spirituel ici. On est tous réunis au nom de Jésus-Christ autour d'une personne. Et ce qui fait que nous sommes tous ensemble, c'est que nous sommes tous habités du Saint-Esprit. Nous devenons une édification spirituelle. Une maison spirituelle ensemble. Le Saint-Esprit vit au milieu de nous, transforme nos vies, façonne nos relations, transforme nos cœurs. Ensuite de ça, un petit peu plus loin, si vous regardez dans Éphésiens 4, verset 30, là, Paul nous dit que cet esprit qui habite en nous, c'est possible de l'attrister. Il dit au verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés », il nous rappelle Éphésiens 1, « pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous, du milieu de vous. » Et donc, Paul est en train de dire que cet esprit qui habite en moi, j'ai été scellé par le Saint-Esprit, peut être attristé par les choix que je fais. Je peux prendre des décisions actives. Je peux faire des choix qui vont attrister l'esprit qui est en moi. Lorsque je décide de marcher dans le péché, lorsque l'esprit me montre quelque chose qui cloche, une colère, une amertume qui est là, une mauvaise pensée qui est là, et que plutôt de m'en repentir, parce que nous péchons tous, n'est-ce pas? Plutôt que de m'en repentir, je me laisse aller là-dedans. Et j'attriste l'Esprit de Dieu parce que je tolère ces choses dans ma vie. Il dit qu'elles disparaissent du milieu de vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Ça veut dire qu'elles ne devraient pas résider au milieu de nous. Dans ma vie, dans mon foyer, dans ma vie personnelle, dans nos relations ici, le péché ne devrait pas être une habitude. Sans quoi je pourrais attrister l'Esprit. Déjà, je commence à avoir des pistes sur ce que ça voudra dire de prier par l'Esprit. Maintenant, au chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et c'est intéressant, c'est un impératif. Guillaume, sois rempli de l'Esprit. Marcel, sois rempli de l'Esprit. C'est un impératif. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire là-dedans. J'ai une décision à prendre sur ça. Mais un petit peu plus tôt, il m'a dit, « Danny, attriste pas le Saint-Esprit. Robert, n'attriste pas le Saint-Esprit. Esther, n'attriste pas le Saint-Esprit. Au contraire, sois rempli de l'Esprit. » C'est intéressant qu'il y a cette opposition entre être enivré puis être rempli de l'Esprit. Quelqu'un qui est un homme de prière ou une femme de prière qui est constamment en train de prier par l'Esprit, est-ce que ça se promène avec un habit noir avec des bas blancs, puis un nœud papillon, puis ça vit un peu dans un monastère, puis c'est des gens ternes, c'est des gens sérieux parce qu'eux autres, ils prient par l'Esprit, puis ils sont constamment avec l'Esprit. C'est intéressant, à quelques reprises, lorsqu'il y a l'idée de plénitude de l'Esprit, c'est par opposition avec un état d'ivresse. Vous vous rappellerez dans le livre des Actes, hein, à la Pentecôte, lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit, ils n'ont pas été comparés à des gens qui dorment, tu sais, ou à des gens qui sont à la guerre. Non, les gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait, ils ont dit quoi? Ils ont l'air comme « Wouh! Wouh! » Ils ont de l'air comme sous. C'est quoi qui se passe? Oui, mais ils sont heureux, ils sont en train de louer Dieu. Ils sont remplis de joie. Les fruits de l'esprit, est-ce que c'est les fruits de l'esprit? Moi, je suis un homme de prière. Puis la vie est dure, puis la vie est éterne. Puis on vit dans un monde où est-ce qu'il y a le péché, puis je suis pas capable. Faut que je me batte contre ce monde-là. Et ça a pas l'air d'être se rempli de l'esprit, ça semble plus à la bubble. Tu sais? Ouh! Je suis rempli de l'esprit. C'est vrai! Mais c'est les fruits de l'esprit. C'est la joie, la paix, la bonté. Oh! Ça, c'est les fruits de l'esprit. Alors déjà, si vous êtes quelqu'un qui, dans la prière, est toujours terne, vous êtes quelqu'un de terne, généralement, vous êtes quelqu'un pour qui tout est dur, la vie est dure, vous êtes probablement pas rempli de l'esprit. Maintenant, il y a des moments où, rempli par l'esprit, rempli de l'esprit, je peux certainement verser des larmes, pleurer, souffrir dans mon cœur. Je pense que Jésus était rempli de l'esprit dans le jardin de Gethsémané. Je pense que Paul était rempli de l'esprit lorsqu'il priait nuit et jour pour les églises et versait des larmes. Mais en même temps, lorsque vous lisez les lettres de Paul, vous voyez que c'est un homme dont le cœur était comblé. Le cœur était rempli de joie. Alors voyez-vous, déjà prier par l'esprit, c'est par opposition certainement aussi à être enivré de vin. Est-ce que c'est un feeling, prier par l'Esprit, être rempli de l'Esprit? Oui et non. Oui et non. Paul nous dit dans Romains 8 que c'est par l'Esprit que nous savons dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Et par l'Esprit, nous disons « Abba, Père ». Bien, tous ceux ici, qui savez dans votre cœur, depuis votre conversion, que vous êtes des enfants de Dieu, cette conviction qu'il y a en vous, qui fait que vous pouvez vous approcher de Dieu et dire, « Père, t'es mon Père. » Mais ce sentiment-là, cette conviction, cette pensée, c'est l'Esprit-Saint qui le fait en vous. Fait que c'est pas non plus comme détacher des sentiments. Quand je viens dans la louange, quand je viens dans la prière et j'ai cette conviction que Dieu m'accueille puis que je peux aller dans sa présence, il y a des sentiments qui viennent avec ça. Bien, Paul nous dit dans Romains que c'est par l'Esprit de Dieu que nous disons « Abba, Père ». Cette conviction que j'ai dans mon cœur que j'ai un Père qui veille sur moi, c'est pas juste intellectuel, c'est à travers mes sentiments, à travers toute ma conviction et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Fait que je vous dirais, prier par l'Esprit, c'est prier en ayant les sentiments de Jésus en nous. Prier par l'Esprit, c'est savoir que je suis en train de résister au péché dans ma vie et que je m'assure de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Prier par l'Esprit, c'est prier avec cette conviction que Dieu est là, que Dieu est au contrôle, que toutes choses dépendent de lui, pas de moi, premièrement. Prier par l'Esprit, c'est savoir que je demeure en Jésus, que je reste près de sa parole, près de ses commandements. Mais c'est clair que ce n'est pas seulement un état. Moi, ça fait 40 ans que je prie et 4 fois j'ai prié par l'Esprit. Parce que j'étais dans la prière, puis tout d'un coup, je me suis mis à prier par l'Esprit. Mais ça aurait été le fun de t'obéir plus souvent. Prie par l'Esprit. C'est une directive. Et je ne suis pas en train de mépriser ce que Dieu peut faire dans un moment de prière. Je ne suis pas en train de mépriser ce que Dieu peut faire dans mon cœur quand je suis dans la prière. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des états de grâce parfois. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la prière par l'Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait attendre, c'est quelque chose qu'on devrait poursuivre. Ne pas attrister l'Esprit, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas quelque chose que j'attends, c'est quelque chose que je choisis et que je décide. Et je vais savoir dans mon fort intérieur que je suis en train de prier par l'Esprit lorsque mon cœur est au même diapason que Dieu. Lorsque je reconnais sa souveraineté, lorsque je reconnais sa grâce, lorsque je reconnais sa puissance, quand les passions qu'il y a sur mon cœur sont les passions de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Priez par l'Esprit. Priez avec intensité. Priez constamment. Faites en tout temps. À tout moment dans la journée, dès que vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, dès que vous pensez à une situation, allez dans la prière constamment, soyez dans la prière. Faites toutes sortes de prières. Des prières, des supplications qui reviennent à peu près au même, c'est deux synonymes, pour ainsi dire. Et donc, constamment, vous avez des requêtes qui vous viennent, vous pensez à des gens, vous pensez à des chrétiens, vous pensez à des frères, vous pensez à des situations. Allez dans la prière, apportez-les à Dieu. Chaque fois que je suis en train de le faire, je suis en train de dire, Dieu, c'est toi qui fais la différence, c'est par toi que ça va se produire, c'est pas par moi. Constamment, je vais faire des prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. La prière est associée avec le fait de veiller à plusieurs reprises. Pensez à Jésus dans le jardin de Gethsémané avec les apôtres. Veillez et priez à plusieurs reprises, même dans les lettres de Paul. Veillez et priez sont associés ensemble. Ne pas prier, c'est souvent dormir, spirituellement. Vous irez lire Pierre cette semaine. Ne pas prier, c'est s'endormir spirituellement. La prière est cette action par laquelle je fixe les regards vers Dieu et je dis non, je ne serai pas emporté par le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais je vais veiller et je vais y mettre des efforts et je vais être là et je vais lutter dans la prière. Un élément qui est évident dans le passage, c'est que ça prend une décision. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez la décision cette année de grandir dans votre vie de prière avec nous ou vous continuez à pelleter des nuages. Puis à un certain moment donné, vous serez assez fatigué de pelleter des nuages pour commencer à dire « Dieu, c'est toi qui changes les choses. » Mais c'est une décision. Veillez. Faites des prières en tout temps. Ça prend la décision de dire « Non, moi, je ne dormirai pas au gaz, Seigneur. Non, je ne vais pas essayer comme Marthe de tout faire par moi-même, mais je vais vraiment venir vers toi dans la prière. Non, je ne vais pas me laisser distraire par toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas importantes, mais je vais me préoccuper par l'avancement de ton royaume dans ma vie, dans mon cœur. Oui, Seigneur, je vais consacrer du temps à la prière. » Il y a vraiment une intensité qui est là. Et pourquoi est-ce qu'on prie? On prie pour tous les chrétiens et on prie spécialement pour l'évangélisation. C'est ça que Paul dit ici. Il dit « Priez pour tous les saints. » Hey, c'est large. « Seigneur, j'ai de la misère à prier pour ma femme, mes deux enfants tous les jours. Je prie pour la nourriture que tu me donnes. » Mais c'est large. C'est tous les saints. C'est beaucoup, beaucoup, Seigneur. C'est vaste. Mais c'est ça, le Seigneur est en train de nous dire « Élargis ta vision. Élargis ta vision. » John Piper, qui sait souvent comment dire les choses de manière assez directe et assez mordante, il dit, tant et aussi longtemps que vous ne comprendrez pas que la prière, c'est un walkie-talkie en temps de guerre. C'est pas un intercom pour communiquer du sous-sol jusqu'à la cuisine pour dire, j'aimerais ça être plus confortable dans mon den, dans mon living room. Et il y a plein de chrétiens pour qui la prière, essentiellement, c'est un petit intercom qui sert aux communications internes dans la maison pour dire « Seigneur, j'aimerais ça que ma condition de vie s'améliore. » Mais la prière n'est pas destinée à ça. C'est une toute petite partie de la prière. La prière commence avec Dieu, avec la gloire de Dieu. La prière, c'est un moyen de communication en temps de guerre. Parce qu'on est engagé dans un combat spirituel, nous sommes en mission, et Paul nous dit, élargissez votre vision, commencez à prier pour tous les saints, pour toute l'Église, pour toutes les églises du Québec, commencez à prier pour les chrétiens partout sur la terre, et on va vous présenter des outils. Je suis en train d'en tester quelques-uns actuellement, je vais vous en présenter dans les prochaines semaines, d'accord? Des outils pour pouvoir prier pour toute la terre, pour l'évangélisation partout sur la terre, un petit peu à tous les jours, mais élargissez la vision, priez pour l'évangélisation. Alors c'est sûr que si pour moi la prière c'est un intercom pour passer du sous-sol à la cuisine puis dire « Seigneur, j'aimerais ça avoir un pops pour continuer à écouter mon match de Super Bowl ce soir », ouf, ça peut devenir pas mal ennuyant la prière et pas très très puissant cette affaire-là. Mais quand je réalise que c'est un outil que Dieu nous a donné parce que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle et que nous voulons faire des conquêtes pour Christ, là ça devient une autre affaire. Parce que la mesure de la mission qui est devant moi demande que j'aille dans la prière. Et que je tombe à genoux et que je sois intense là-dedans. Maintenant, prier pour l'évangélisation. Comment on prie pour ça? Je vous ai dit, on a deux priorités qu'on veut placer devant vous cette année. Et je vais y aller brièvement. Deux priorités qu'on veut placer devant vous cette année, la prière et l'évangélisation. Et je trouvais que c'était un beau passage pour commencer. On va commencer par la prière pour l'évangélisation. Paul demande que les chrétiens prient pour lui. Moi, je vous dirais que c'est comme ça qu'on doit commencer à prier pour nous. C'est comme ça que vous devez commencer à prier pour moi. C'est comme ça que vous devez commencer à prier pour Alex, qui doit nous conduire aussi dans tout ça. Mais c'est comme ça qu'on doit prier les uns pour les autres. Paul dit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, ça veut dire avec courage et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Paul est en train de dire ici, « Priez pour celui qui doit annoncer l'Évangile. » Tournez avec moi dans Colossiens 4, s'il vous plaît, brièvement, Colossiens 4. Je vais juste mettre deux passages en parallèle. Dans Éphésiens 6, Paul dit, « Priez pour celui qui doit annoncer l'Évangile. » D'accord? Dans Colossiens 4, un passage parallèle, Paul dit, « Priez pour ceux qui vont entendre l'Évangile. » Colossiens 4, verset 2. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Paul est en train de dire, priez pour les gens qui vont entendre l'Évangile. Il faut que Dieu ouvre une porte pour que l'Évangile se rende dans leur cœur. Parce que c'est un mystère qu'on est en train d'annoncer. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Alors, priez pour ceux qui vont entendre, et si vous revenez avec moi dans Éphésiens 6, priez pour ceux qui vont parler. Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour l'évangélisation? Vous savez, j'aime ça me donner un exemple sur les niaiseries que je peux faire, mais je vais vous en donner une autre. D'accord? À Noël, on a eu le spectacle de Noël. Puis honnêtement, mon intervention avec la parole de Dieu, c'était nul. J'ai pas exposé l'Évangile. Intimidé, pas prêt, j'étais pas concentré. N'importe quelle défaite que vous pourrez trouver, c'était nul. J'ai pas exposé l'Évangile. C'était pas clair, c'était pas complet, c'était pas provocateur. L'apôtre Paul demande qu'on prie pour qu'il ait du courage. Je comprends pas, c'est le gars qui se garochait dans des naufrages, quand il y avait quelqu'un qui sortait un foie, lui il dit « Ah ouais, moi! » Lui, il a besoin de courage. Puis il demande des prières pour qu'il puisse annoncer avec assurance. Mais comment, Paul, tu as toujours de l'assurance? Non, vous comprenez pas. Je suis fait de la même nature que vous, je suis un pécheur. Il demande pour que ce qu'il a à faire connaître, il le fasse librement. Il demande pour que Dieu intervienne quand il ouvre la bouche parce que c'est un mystère qu'il a annoncé. Prier pour notre évangélisation, c'est prier pour que lorsque nous ouvrons la bouche pour l'Évangile, le message soit clair. C'est prier pour qu'on ait le courage de dire tout le message qui doit être dit. C'est pas à mode de dire aux gens, t'es un crotté, rebelle, qui méprise Dieu. Et si tu ne te repens pas, tu es damné pour l'éternité. Le seul moyen que Dieu va t'accueillir dans sa présence, c'est si tu t'humilies et tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Et la personne te regarde et elle dit, péché? Je pense que tu ne me connais pas. Je n'ai pas fait de prison, moi. Ce n'est pas un message évident qu'on a apporté. Et ça prend du courage pour le faire. Et il faut que Dieu nous donne les mots pour le faire. Priez pour moi quand j'annonce l'Évangile. Je vous l'ai dit vendredi, je vais le faire. Priez pour moi. Priez pour moi lorsque des baptêmes, lorsque volontairement je prends le temps d'annoncer l'Évangile. prier pour les équipes de la fusion qui vont visiter nos visiteurs. Et il y a des gens qui arrivent ici qui sont chrétiens, mais d'autres sont tellement mêlés. Il faut qu'on les aide à aller vers la croix et puis on veut bien le faire. Prier pour Alexandre qui est là et qui veille à dire, bon, regardez les gars, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait s'en aller par là. Priez pour l'Église. Priez pour nous, pour vous, afin que nous soyons courageux pour annoncer l'Évangile. Le message qu'on a entre les mains, frères et sœurs, est absolument extraordinaire. Mais c'est pas juste avec des cours de EE, puis c'est pas juste parce qu'on passe 20 heures par semaine à se préparer pour un sermon, qu'on va le faire avec courage, que ça va être clair et que ça va être puissant. Et une fois que tout cela est fait, ça ne veut pas dire que les cœurs vont être ouverts. Parce que Paul dit, priez pour que Dieu nous ouvre une porte. Alors commencez à prier maintenant pour que Dieu nous ouvre des portes pour l'Évangile sur la rive sud. Amen. Frères et sœurs, si nous sommes ici, c'est parce que Dieu est intervenu dans nos vies. Tout a commencé avec lui. Il n'y a personne ici qui était assez bon, assez smart, puis assez cool pour chercher Dieu vraiment. Et si vous croyez cela, venez-vous-en, on va vous prêcher l'Évangile encore une fois. Ça a tout commencé avec Dieu. Ça concerne sa gloire, sa grandeur, et c'est lui qui a pourvu. S'il doit se passer quelque chose ici, c'est parce que Dieu va intervenir. Commençons à apprendre à prier. Et ce qu'on a le plus à cœur, c'est que le royaume s'étende, l'Évangile s'étende dans les cœurs. Commençons à prier pour l'évangélisation. Priez pour les gens que vous allez recevoir ce soir chez vous, avec votre Super Bowl peut-être. Et priez pour que Dieu ouvre leur cœur et que vous ayez le courage d'ouvrir la bouche. Amen. On va prier ensemble. Père, Père éternel, tout commence avec toi, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes la vie spirituelle. Sans toi, nous sommes morts spirituellement, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui ouvres les yeux dans notre cœur pour que ce mystère, l'Évangile, ne soit plus mystérieux, mais qu'il soit beauté et grâce devant nous. Qu'il soit pour nous la porte d'entrée pour être réconciliés avec toi. Et c'est toi, Père, qui ouvre nos cœurs, qui illumine les yeux de notre cœur. C'est toi qui ouvre notre intelligence pour que cette vieille histoire ne soit plus remplie de poussière, mais qu'elle soit grâce et vie. Pardon et paix. Père, nous venons devant toi parce que tu as convaincu les anciens et plusieurs ici, parce que tu m'as convaincu, Seigneur, que tout commence là par la prière. Parce que c'est toi qui vas faire la différence. C'est toi qui vas nous accorder des victoires, Seigneur. Et devant cette assemblée, tu sais, je me suis engagé, Seigneur, à grandir comme homme de prière et à conduire cette église aussi là-dedans. Et Père, on veut te prier pour toutes les opportunités que nous aurons d'annoncer l'Évangile dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Nous avons besoin, Seigneur, comme Paul, que tu nous donnes du courage, de l'assurance, de la clarté lorsque nous exposons ces choses, Seigneur. Nous avons besoin que tu prépares le terrain, que tu prépares les cœurs, Seigneur, que tu ouvres les portes. Et Père, si je prends le temps de prier, c'est pas seulement parce que tu m'as humilié, c'est parce que je crois en toi. C'est parce que je sais que tu réponds aux prières. Et parce que je sais, Seigneur, que tu vas répondre à cette prière qui te plaît particulièrement, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.